France Inter.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, qui a déménagé et pour aller où depuis le Covid? La Fondation Jean Jaurès s'est penchée sur la question. Elle vient de publier une note qui montre que l'attrait du littoral s'est confirmé depuis 4 ans, surtout sur la façade atlantique. Même mouvement en direction des zones périurbaines autour des métropoles à la faveur des mutations observées pendant la crise sanitaire. Télétravail, soif de grand air, besoin de jardin, mais aussi recherche de dessertes ferroviaires, si possible, à grande vitesse. Cela dit, tout le monde n'a pas eu la possibilité de réaliser son rêve ou de déménager. Question de moyens, avec toujours le problème crucial du logement et du manque de terrain disponible. Tout cela avec des conséquences pour ceux qui partent, mais aussi pour ceux qui voient arriver les nouveaux venus. Alors ce soir, plus que jamais, on attend vos témoignages. Dites-nous si vous avez déménagé, songé à le faire ou renoncé. Si oui, pour quelles raisons? Avec nous pour en parler, plusieurs invités que je vous présente. Bonsoir Jérôme Fourquet.
Bonsoir.
Directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP. Vous êtes l'auteur avec Sylvain Monternac de cette fameuse note de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes également l'auteur de La France d'après, tableau politique. C'est au seuil. Isabelle Cabla-Langlois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice régionale de l'INSEE Île-de-France. Vous nous direz que vous avez vu peut-être vous partir des habitants. On verra ça dans un instant. Bonsoir Xavier Desjardins.
Bonsoir.
Professeur de géographie à Sorbonne Université, vous enseignez l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Vous êtes l'auteur avec David Jais de La Révolution obligée chez Alary. Pour participer à ce téléphone sonne, le numéro n'a pas changé, 01 45 24 7000.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Allez, direction Poitiers pour commencer. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Paul, une petite voix de quel âge?
J'ai 12 ans.
Alors, bonsoir Paul, 12 ans. Paul, as-tu déménagé? Je me permets de te tutoyer?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, moi, c'est le confinement a commencé quand j'avais 7 ans, donc j'étais très jeune. Et en fait, on vivait avec ma famille dans un petit appartement en centre-ville. On s'y sentait très bien. C'était un endroit très agréable. Et puis moi, depuis que je suis tout petit, c'est toujours le cas, j'ai toujours vraiment aimé pouvoir me balader, mais aussi avoir des projets. J'étais déléguée dans mon école, j'aimais bien aller en cours, rencontrer des gens. Et c'est vrai qu'avec le confinement, en fait, toutes les activités que j'avais, je pouvais plus les faire parce qu'on était enfermés chez nous. Et le problème, c'est que j'étais quand même dans un petit espace. Et en fait, l'espace que j'avais a fini par rentrer dans la tête parce que c'était un tout petit espace et je me sentais plus vraiment bien dans cet appartement. Et donc, j'ai parlé à mes parents de l'idée de déménager soit à la campagne, soit un petit peu plus loin du centre-ville. Et en même temps, pour mes parents, ils étaient dans la même situation. Ils avaient envie de déménager. Le problème, c'est qu'ils étaient attachés à l'appartement. Parce qu'en fait, il y avait toute l'organisation familiale dans le quartier. Parce qu'il y avait les magasins pour faire les courses. Il y avait l'école qui était en face. Et c'était pas forcément très pratique. Mais on a quand même regardé les annonces. Et je pense que là, j'ai quand même contribué au fait qu'on ait déménagé avec mes parents. Parce qu'on a finalement déménagé un petit peu plus loin du centre-ville, dans une maison plus spacieuse, avec jardin, etc. Et maintenant, je m'y sens vraiment beaucoup mieux, parce que j'ai une chambre plus grande, j'ai un jardin avec rivière, je peux inviter des gens. Et même si l'inconvénient, c'est qu'on nous a un peu éloignés du centre-ville, et donc de quelques activités qui étaient agréables à faire, c'est vrai que franchement, c'est beaucoup plus agréable d'avoir cet espace pour soi. Et là, vraiment, j'ai la place d'avoir une chambre, par exemple, où je mets vraiment les choses que j'aime. Et ça, c'est vraiment agréable.
Eh ben, tu vas nous faire envie, hein, Paul, hein, franchement. Un jardin avec rivière. Là, je pense que parmi les auditeurs de France Inter, il y en a un certain nombre qui vont être un peu jaloux ce soir. En tout cas, Paul, bravo pour avoir convaincu tes parents, même si je crois comprendre qu'ils se sont laissés facilement convaincre parce qu'ils devaient l'être aussi, eux. Merci, Paul. Tu voulais rajouter un mot ou je peux t'abandonner?
Non, c'est bon, merci beaucoup.
Merci mille fois à toi, Paul, pour ce témoignage. Ben voilà, on n'a pas besoin d'être adulte pour avoir envie de changer de vie. Jérôme Fourquet, comment vous réagissez quand vous l'écoutez?
Mais je pense que Paul, du haut de ses 12 ans, a résumé pas mal des phénomènes qu'on a vus à l'œuvre, à savoir le fait que toute une partie de la population à bouger du cœur des grands centres urbains vers leur périphérie, pas forcément très très lointaine, comme nous dit Paul, avec le Covid et les confinements qui ont généré pas mal d'envie peut-être aussi de frustration chez certains, et qui a poussé à aller chercher plus d'espace. Ça a été très bien dit, une chambre pour chacun des enfants, un bout de jardin.
Avec rivière.
Alors, la rivière, là, c'est la cerise sur le gâteau. Mais, et donc ça, à budget constant, eh bien, pour trouver plus d'espace, il faut aller un peu plus loin, parfois beaucoup, significativement plus loin du cœur de la ville. Et c'est ce qu'on constate sur les cartes, sur les données. C'est-à-dire qu'on voit des gains de population sur toutes les couronnes, première, deuxième couronne, de la plupart des grandes métropoles françaises. Donc ça, c'est une des tendances fortes.
Est-ce qu'on sait mesurer le pourcentage de personnes qui ont déménagé depuis la crise sanitaire ? Peut-être vous, Isabelle Cabla-Langlois, à l'INSEE, vous avez pu mesurer ça ?
Alors, il existe plusieurs types de données qui nous permettent de mesurer les évolutions des populations et les flux migratoires. Alors, évidemment, au premier rang desquels, le recensement de la population. Il y a eu une étude qui est parue à partir de l'enquête de recensement qui interrogeait les personnes au 1er janvier 2022 pour regarder les déménagements qui avaient eu lieu en 2021. Et pouvoir ensuite les comparer à ce qui se passait avant la crise. On a bien en tête que 2021, on est au cœur de la crise du Covid. Eh bien, effectivement, on voit des évolutions assez sensibles dans ces déménagements, avec les phénomènes que M. Fourquier décrivait. L'une des choses qui est vraiment notable, c'est ce qui se passe au niveau de la région parisienne. On a vu effectivement un accroissement sensible des départs d'Île-de-France vers la province, vers un ensemble de villes de province. On pourra détailler un peu plus tard, peut-être.
Bien sûr. On entendait que Paul a déménagé du centre de Poitiers vers la périphérie de Poitiers. Ça, Xavier Desjardins, est-ce que c'est un phénomène important par rapport à ceux qui ont pu changer de région ? Peut-être plus important même ?
C'est un phénomène qui est important, et en fait là le Covid a servi d'accélérateur, puisqu'en fait ça fait 5 décennies qu'il y a un mouvement de desserrement, même avant on pourrait dire, dès qu'il y a eu le chemin de fer en fait les gens se sont éloignés au 19e siècle, puis évidemment la voiture ça a été un accélérateur d'étalement urbain. Et en fait aujourd'hui on a même, et puis après de nouveaux éléments aussi, de le réfrigérateur, le congélateur qui permettent de faire ses courses moins souvent, etc. Et puis aujourd'hui le télétravail qui permet aussi de pas aller tous les jours au lieu de travail, donc c'est encore quelque chose qui permet de se mettre à distance. Et effectivement c'est un mouvement d'accélération d'une tendance. Alors ce qu'on verra peut-être en 2030, c'est si des gens ont réalisé plus vite, plus tôt, parce que souvent il y a des étapes dans des parcours de vie, assez généralement il y a des parcours, et les gens, beaucoup de ménages ont leur premier enfant en ville dense, etc., puis déménagent au deuxième ou au troisième, etc. Et donc peut-être que là le Covid a eu un effet d'accélérateur sur des déménagements, puisque finalement la dynamique sociale que nous racontait Paul, c'est une dynamique qui préexistait au Covid, mais qui a permis de l'accélérer.
Alors on va évidemment y revenir, on va repasser par le standard de France Inter. Bonsoir Anita.
Bonsoir.
Vous êtes en Bourgogne, mais vous n'avez pas toujours été en Bourgogne.
Et non, donc je suis commerciale dans l'informatique, je travaillais à l'époque à Paris à la Défense. Et le jour du confinement, en fait en Italie, ma mère, ça fait déjà un mois qu'ils étaient confinés. Et le 16 mars, je me suis dit, bon... à Paris, ça va peut-être être un petit peu compliqué d'être enfermé. J'étais en colocation, on était 3 en plein centre et on avait une maison de famille un petit peu abandonnée, un peu reculée dans le parc naturel du Morvan, dans la Nièvre. Donc je me suis dit, je vais faire une petite valise, ça va durer qu'un mois, et puis au final, ça a duré 4 ans et je ne suis jamais retournée vivre à Paris. Je suis toujours en télétravail, donc mon job me le permet. Et jamais, pour rien au monde, je retournerai vivre en ville, en tout cas à Paris, où je reprendrai un travail dans un bureau. Quand on a goûté à la campagne et à la vie un petit peu plus lente, un peu plus saine, un peu plus tranquille, c'est très difficile de faire un pas en arrière. Et j'ai 29 ans et voilà, ça a été mon expérience.
Eh ben merci Anita, vive le télétravail si je comprends bien. Jérôme Fourquet, une première question. Elle est allée en Bourgogne. Alors moi, je regarde votre carte parce que vous avez fait une jolie carte sur
le Morvan.
Voilà, sur les déplacements de population. J'ai pas l'impression que le Morvan soit une destination privilégiée, si je me trompe.
Non. Alors il y a eu des flux bien évidemment, mais quand on regarde les évolutions de population, typiquement le Morvan, c'est un endroit où on a une population locale qui est assez âgée. Et donc l'apport de nouveaux arrivants n'a pas été de nature à compenser la baisse de la démographie dans ces territoires, dans tout ce qu'on pourrait appeler un peu la diagonale du vide. Ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est que autant on a vu avec le témoignage de Paul comment le Covid avait produit un effet psychologique, l'enfermement, autant là le Covid a accéléré aussi une innovation technologique. Et sa diffusion dans toute la population, c'est le télétravail qui existe. Il était déjà possible de télétravailler, mais dans les entreprises, on regardait ça un peu d'un mauvais œil. Aujourd'hui, bien évidemment, toute la population française ne télétravaille pas. Il y a beaucoup d'emplois qui sont non télétravaillables. Mais d'après les données de l'IFOP, c'est 25% des salariés qui télétravaillent 2 jours ou plus par semaine.
Ça paraît énorme, hein.
Et ce qui est beaucoup. Et donc, télétravailler 2 jours ou plus... Alors là, la Nièvre, c'est loin de Paris, mais ça vous permet typiquement d'aller vous installer en très très grande périphérie, ce que vous n'auriez pas pu vous permettre de faire avant le Covid, parce qu'il fallait faire l'aller-retour pour le travail 5 fois par semaine. Là, vous ne l'avez plus à le faire que 2-3 fois par semaine pour un quart des salariés. Et en Ile-de-France, c'est 40% de salariés qui sont en télétravail 2 jours ou plus. La SNCF vient de publier une enquête qui montre que la fréquentation de ces trains, les fameux TER, trains express régionaux, a augmenté très significativement. Ils ont fait une étude sur le profil des nouveaux utilisateurs. Donc il y a certes des très jeunes, des scolaires et des étudiants, où là c'est l'effet de réduction avec des cartes d'abonnement, mais on a aussi une augmentation sur des cadres et des jeunes actifs qui sont typiquement des télétravailleurs et qui ont décidé d'aller s'installer plus loin que la ville-centre, et de prendre, par exemple, le train.
Le train, très important, Jérôme Fourquet, parce que Céline, qui est en Corrèze, a envie de nous parler du train, c'est bien ça? Bonsoir Céline.
Oui, bonsoir.
Alors, vous êtes allée vous installer en Corrèze?
C'est ça, oui. Mon mari est corrézien et je suis périgourdine, donc après 7 ans... Je suis fonctionnaire, donc après 7 ans, j'ai enfin obtenu ma mutation et ça nous a permis de revenir vers chez nous.
Et alors, il y a un train, il y a ce qu'il faut ou pas?
Eh bien, en fait, il y a un train, mais mon mari doit faire 40 minutes de voiture pour prendre le train pour se rendre à son travail. Ce qui nous embête un petit peu, ce qui nous chagrine, c'est qu'il existait une ligne de train qui permettait du coup de faire Limoges-Brive. Donc nous, on habite au centre, et donc ça aurait pu permettre à mon mari de ne pas du tout prendre la voiture, ce qui aurait été incroyable au niveau écologique et économique aussi. Et malheureusement, cette ligne de train n'existe plus. Donc je voulais aussi faire un petit coup de pub pour Bob Seal. C'est une association qui défend du coup la réinstauration, le fait
que des anciennes lignes.
Oui, c'est
la
ça.
La réouverture d'anciennes lignes de train.
Exactement, merci beaucoup. Du coup, ça nous permettrait d'avoir une ligne restaurée et voilà qui pourrait permettre à beaucoup de gens de l'emprunter. Elle passe par Saint-Thierry-la-Perche et malheureusement, elle n'existe plus depuis que elle était laissée à l'abandon et un pont s'est effondré.
Le message est passé, Céline. Merci beaucoup. En tout cas, on a compris une chose en vous écoutant, c'est que on peut partir pour des questions d'environnement, de travail. On peut partir pour des raisons conjugales aussi, hein, des rapprochements de famille. Qu'est-ce qu'on sait de ça, Xavier Desjardins, sur la les Français bougent beaucoup ou pas d'une manière générale?
Oui, les Français déménagent assez souvent. Je crois qu'il y en a 1 sur 9 qui déménage chaque année. Donc il y a beaucoup, beaucoup de déménagements. Et effectivement, là, les gens nous parlent de déménagements lointains. Mais en fait, quand on déménage, les Français, ils déménagent quand même d'abord dans la proximité. Et j'ai regardé, j'ai vu que 60% des Français déménagent soit dans des villes de la même taille. C'est-à-dire, ils sont du rural, ils restent dans le rural, des petites villes, ils restent dans une petite ville, ville moyenne, ou voire dans la même ville moyenne. Donc ils sont quand même plutôt stable, ces flux-là. Et ce qu'on voit, en fait, ce qu'on a vu avec le... Et vers les zones rurales, avant le Covid, c'était 17% des déménagements vers les zones rurales. Aujourd'hui, c'est 18 ou 19%. Donc effectivement, c'est un petit peu plus. En fait, ce n'est pas un changement. C'est le Covid, en fait, voilà, accélère des tendances qui étaient là. Ce n'est pas un changement. Il n'y a pas d'exode urbain, y a les villes ne sont pas vides, etc. etc. Mais voilà, c'est des tendances un petit peu plus favorables au rural, un petit peu plus favorables aux villes moyennes. Ça ne change pas forcément. Dans beaucoup d'endroits, comme dans le Morvan ou en Corrèze, ça ne change pas fondamentalement les dynamiques démographiques. Parce que, voilà, les populations vieillissantes, etc. Mais ce que ça change, et le dernier témoignage le montre, c'est que ça change pour les sociétés locales, c'est important, puisque ces gens qui arrivent, bah, ils arrivent avec leur métier, leur passion, leur envie de militer, là, par exemple, pour une voie de chemin de fer. Et donc, c'est peut-être des petits flux, mais qui peuvent être localement assez importants de recomposition en fait de la vie locale.
D'ailleurs, on voit des départements qui font de la pub pour attirer de nouveaux habitants. Hein. Ça existe aussi, Jérôme Fourquet. On le voit.
Oui, un grand marketing territorial. Et donc, on va peut-être du coup aborder la deuxième grande évolution après le desserrement et la volonté de gagner un peu en espace en quittant le cœur des villes. On voit aussi que la deuxième tendance a profité aux départements ou aux territoires, plus exactement, qui sont les plus attractifs touristiquement. Et donc, quand vous disiez que des départements font de la publicité, ils font à la fois de la publicité pour venir passer le week-end, et puis plus y affinité. Et donc, on voit que c'est déjà dans les territoires qui sont historiquement attractifs touristiquement, typiquement le littoral atlantique, par exemple, ou les départements du sud de la France, où il fait beau, que les dynamiques démographiques ont été amplifiées, et car, comme disait M. Desjardins, tout ça n'a fait que le Covid n'a fait qu'accélérer, accentuer des tendances qui étaient déjà préexistantes.
Alors, j'en profite pour signaler que cette jolie carte que vous avez pu produire, où on voit effectivement en jaune, orange et rouge les territoires qui ont accueilli de nouveaux habitants, et en bleu ceux qui en ont perdu, on peut la trouver sur le site de l'émission. Comme ça, on peut joindre la carte au reste de l'émission. Si je regarde bien cette carte, et là je me retourne vers vous, Isabelle Cabla-Langlois, concernant la région parisienne, c'est un peu contrasté. Il y a des parties de la région parisienne qui perdent des habitants, d'autres qui en gagnent. Comment ça se passe exactement ?
Alors, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Le cœur urbain tend à être moins attractif. Donc, on a sorti une étude récemment qui montre un vrai contraste entre ce qui se passait avant 2019 et depuis 2021. Avec un déficit migratoire pour la MGP, pour donner quelques chiffres peut-être pour les auditeurs.
C'est quoi la MGP ?
La métropole du Grand Paris. Veuillez m'excuser. Donc, typiquement, c'est Paris, la petite couronne. D'accord. Et un petit morceau de la grande couronne. Donc, en 2021, vous avez 49 700 ménages provinciaux qui sont venus s'installer dans la métropole du Grand Paris, donc Paris, petite couronne. 81 000 qui en sont partis. Si on se situe 10 ans plus tôt, on était quasiment à l'équilibre. On avait un petit déficit, mais on était presque à l'équilibre. Donc c'est vraiment là que se passe vraiment l'évolution, même si dans les chiffres que je vous ai donnés, il reste comparativement à l'ensemble des déménagements assez faible.
Le téléphone sonne. Voilà, je vous rappelle que nous sommes avec Jérôme Fourquet de l'IFOP, Isabelle Cabla-Langlois de l'INSEE, Xavier Desjardins qui est professeur de géographie à la Sorbonne, et qu'on parle de ceux qui ont déménagé depuis le Covid. On va partir en Bretagne. Bonsoir Delphine.
Oui, bonsoir.
Bretagne, bretonne d'avant ou d'après ?
Bretonne de toujours, ah. Une pure verre.
D'accord. On vous écoute Delphine.
Alors, je voulais témoigner par rapport à ma situation personnelle qui nous amène à quitter la région Vannetaise pour nous rapprocher de la région Lorientaise. Donc, c'est pas très loin, hein, mais on voit bien en fait que le Covid, effectivement, a accéléré l'arrivée d'un certain nombre de nouvelles personnes sur notre région, et que l'attrait de la Bretagne est se vérifie au quotidien, malheureusement faisant grimper les prix de l'immobilier pour les gens qui travaillent au quotidien sur ce secteur-là. Et puis aux difficultés que je tiens à signaler, qui est assez importante aussi sur le territoire, en tout cas morbihanais, autour des métropoles, enfin des grandes villes, parce qu'on n'est pas des métropoles, c'est le dimensionnement des infrastructures routières, en fait, qui pêchent aujourd'hui chez nous.
Merci pour ce témoignage, Delphine, sur la grande transhumance entre de Vannes à Lorient. Jérôme Fourquet, ça dit quelque chose déjà du prix de l'immobilier. Les nouveaux venus font grimper les prix.
Oui, alors on était déjà sur cette zone littorale sur des prix qui étaient déjà les prix de l'immobilier qui étaient déjà conséquents, mais l'immobilier, comme d'autres marchés, répondent à la loi de l'offre et la demande. On peut pas construire de manière massive avec vue sur mer, et donc les constructions et les biens immobiliers qui sont à vendre ont vu leur prix grimper. Alors, il se trouve dans la note un graphique où on a l'augmentation des prix de l'immobilier entre 2019 et 2014 et 2024, excusez-moi. Et à Vannes, c'est plus 40%.
C'est énorme.
Et l'Armor-Plage, plus 40%, sachant qu'encore une fois, on partait pas de zéro déjà. Hein. C'était des endroits qui étaient chers. Alors, on retombe sur notre question du train, notamment avec Vannes. Qui est Lorient aussi, mais Vannes est desservie par la LGV qui vient de Rennes, mais surtout aussi de Paris. Et donc, on a une population extérieure à la Bretagne qui vient s'installer en télétravail, bénéficier de la qualité de vie très agréable du golfe du Morbihan, et donc fait grimper les prix parce qu'elle a un pouvoir d'achat immobilier qui est relativement conséquent. Et il y a un effet d'éviction. Au détriment de populations pur beurre, pour reprendre l'expression de l'auditrice, qui, s'ils veulent rester dans leur région, soit doivent reculer un peu, parfois beaucoup, dans l'intérieur des terres, soit aller plus loin vers l'ouest, sur la côte, et donc c'est la transhumance de Vannes vers l'Orient. L'Orient est aussi desservi par la LGV, mais touristiquement est moins prisé, et puis elle est plus loin sur la ligne. Donc on est en plein dans le phénomène qu'on décrit par les chiffres, et là on a un témoignage très vivant.
Voilà, et ça se retrouve tout le long du littoral, ou presque, hein. On a le souvenir des missions qu'on a pu faire, même sur Airbnb, hein, sur la difficulté qu'il y a à se loger jusqu'au Pays Basque. Ouais. Ça, c'est une réalité. On va avoir une question pour vous, Xavier Desjardins, on va la poser à Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste.
Oui, bonsoir. J'ai une question simple, deux questions simples. C'est de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'exode rural. Est-ce qu'en France, on a toujours cette volonté d'aller chercher du mieux vivre en ville? Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Où en sommes-nous de l'exode rural, Xavier Desjardins?
C'est une bonne question. En fait, les campagnes aujourd'hui, elles sont extrêmement diversifiées. Il y a une époque, on parlait d'exode rural, parce qu'en fait, toutes les campagnes perdaient des habitants, sous l'effet principal, en fait, de la modernisation agricole. Et donc, on avait besoin de moins d'emplois dans le monde. Enfin, voilà, la paysannerie, c'était 50% des actifs en 1946. Aujourd'hui, c'est 3%. Donc, évidemment, ça a un impact considérable sur la démographie des zones rurales. Aujourd'hui, sur les zones rurales, en fait, c'est extrêmement contrasté, parce que, en fait, on a des zones rurales au nord, à l'est et dans les pourtours du bassin parisien, qui sont dans des dynamiques démographiques qui perdent des habitants encore, et parfois de manière accentuée, et des zones rurales plutôt l'ouest, enfin une carte à la radio c'est pas évident, mais plutôt toute la façade atlantique rétro-littorale, on pourrait dire en gros toute la Bretagne quasiment, sauf la Bretagne intérieure, les Pays de la Loire, une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine, et aussi les campagnes qui sont autour du pourtour méditerranéen, là gagnent les habitants. Donc aujourd'hui, on a, il n'y a plus de sujets finalement de rééquilibrage ville-campagne, même si c'est posé un jour. On est plutôt, de gérer des dynamiques extrêmement contrastées entre les campagnes. Et d'ailleurs, après le Covid, effectivement, des campagnes ont gagné, mais c'est très sélectif. Il y en a qui ont beaucoup gagné et d'autres qui, d'une certaine manière, ont à peine, le mouvement les a à peine effleurés parce que moins bien desservis par le train, parce que avec des paysages peut-être moins attractifs, il y a aussi des effets un peu de mode et puis de climat, parce que c'est vrai que quand on va chercher si on veut un jardin, on va en profiter beaucoup de jours dans l'année. Et donc, il y a certaines régions qui sont plus favorables que d'autres pour ce genre de pratiques.
Alors après, il y a peut-être aussi d'autres facteurs. Il y a le travail, on en a parlé, les infrastructures ferroviaires, routières. Puis, il y a j'imagine la question de la santé. Alors là, il y a une carte dans votre note, Jérôme Fourquet. Vous l'avez chopée à l'Ordre des médecins, cette carte. Mais elle est impressionnante, la carte des médecins généralistes. Ce qui est très frappant, c'est le petit point de la région parisienne. Et alors, tout ce qui est autour de la région parisienne, il y a une vingtaine au moins de départements, oui, où c'est le désert, ouais, pas total, mais presque.
C'est là où la densité de médecins généralistes par habitant va être la plus faible de France. Et donc, on est en grande partie sur le type de territoire ruraux que décrivait M. Desjardins à l'instant. Et donc, tout ça nous dit deux choses. D'abord, les médecins sont des Français comme les autres. Et donc,
ils aiment bien aller à la mer.
Ils répondent, à Vannes, je pense qu'il n'y a pas de désert médical à Vannes. Ils répondent aux mêmes aspirations que les Français. Donc, ces territoires qui sont moins attractifs attirent moins ou retiennent moins les médecins. Et puis, deuxième élément, parmi les facteurs qui vont contribuer à faire qu'on va décider de s'installer à tel ou tel endroit, on a parlé de la desserte ferroviaire, on a parlé des services publics, mais la présence de médecins est aussi quelque chose qu'on va très fortement regarder. Et donc, ces phénomènes n'ont fait que s'amplifier. D'où, c'est le sujet d'un autre téléphone sonne, la question de la liberté d'installation des médecins, qui peut-être un jour devra se poser, parce que, vu la pénurie, on a des territoires qui sont en manque gravissime aujourd'hui de professionnels de santé.
Je vous confirme que c'est un téléphone sonne qu'on a déjà fait, qu'on va sans doute refaire. Une question qui nous arrive par mail, c'est Marie. Ce sujet souligne les inégalités sociales en France. Ce sont essentiellement les cadres aisés qui peuvent se permettre de télétravailler dans leur maison tout en gardant leur emploi parisien de bureau. Les enseignants, infirmiers, emplois du médico-social ou du service n'ont eu aucunement à se poser la question d'un déménagement dans une grande maison en zone rurale. Je ne sais pas qui veut réagir. Xavier Desjardins.
Oui, c'est tout à fait vrai. Effectivement, il y a des très fortes inégalités sociales par rapport à ces déménagers. Effectivement, là, on parle des classes supérieures qui sont aisées, ou plus exactement, on parle de ceux qui, il faut un peu d'argent, mais qui ont aussi, par leur métier, la possibilité de se déplacer. Donc, effectivement, parfois, c'est une inégalité entre types de métiers. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur ceux qui n'ont plus de métier parce qu'ils sont retraités. Bah, eux, c'est vraiment la population qui, je dirais... Alors, il y a des retraités pauvres qui ont pas de possibilité véritablement de déménager ou de changer de région, ou qui ont des liens familiaux tels que c'est pas possible, mais ils sont extrêmement nombreux à déménager. Et en fait, les retraités, les mouvements qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le périurbain et le littoral, ils le font encore plus que les autres. C'est-à-dire, ils accentuent les dynamiques parce qu'eux ne sont pas tenus par l'emploi. Donc, on voit bien que là, c'est, je dirais, la France des retraités, c'est la France que vous présentez en extrême, d'une certaine manière, avec les dynamiques. Et pour l'Île-de-France, par exemple, c'est aussi la région que les retraités fuient. En Île-de-France, il y a 15% des habitants qui sont retraités. La moyenne dans les autres régions françaises, c'est 24%. La différence est énorme. Si la région parisienne gardait ses retraités, il y aurait 1 million d'habitants en plus. Voilà. Donc on voit que là, c'est quand même un effet considérable qui montre bien qu'effectivement, ceux qui déménagent sont ceux qui peuvent.
Et il y a Isabelle sur WhatsApp qui nous dit « En Ile-de-France, l'éloignement hors du périmètre du Grand Paris n'est pas suivi par l'adaptation des services publics, en particulier de transport. » Isabelle Cabla-Langlois, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, effectivement, certains partent.
Alors... Il y a un certain nombre de projets, je suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, de développement de transport, le Grand Paris Express, qui vise quand même à desservir un peu mieux un ensemble de zones et de permettre plus facilement de venir travailler, même quand on est dans les centres urbains, même si on est un peu éloigné. Il y a également des projets dans d'autres provinces. Moi, je voudrais rebondir peut-être sur le sujet du télétravail différencié selon les catégories socio-professionnelles, parce que c'est des choses qu'on mesure effectivement avec... Alors, on avait mené une enquête en mars 2022, on s'était appuyé sur l'enquête emploi, et on voyait que effectivement, les cadres sont sont plus de 50% à télétravailler, alors que le télétravail pour les ouvriers, c'est quasiment inexistant. C'est intéressant de voir l'évolution incroyable qu'a créé le Covid à cet égard. Si on regarde 2017, c'est il y a moins de 10 ans, selon une enquête de la DARES, seulement 3% des salariés pratiquaient le télétravail au moins un jour par semaine. En 2021, on est à 22% et encore plus aujourd'hui.
Donc c'est une vraie révolution.
Une vraie révolution.
À propos des professions qui ont du mal à bouger, Jérôme Fourquet, dans votre note, vous arrêtez sur le cas des professeurs et du fameux barème qui permet d'obtenir une mutation. Et alors là, c'est spectaculaire. 22 points nécessaires pour aller dans l'Aisne, dans l'Oise, dans l'Allier. Pour aller en Vendée, près de 800 points.
Et pour aller dans le Morbihan, on en parlait tout à l'heure, 1163 points.
Tout est dit.
Voilà. Et donc, les goûts immobiliers sont les mêmes chez les enseignants, chez les retraités, aisés, chez les cadres. Et tout le monde aspire à pouvoir habiter ou loger sa famille dans ce qu'on pourrait appeler la France triple A, celle qui fait rêver, celle qui est au bord de mer, celle des beaux espaces ruraux. Et il y a une espèce de lutte des places. Qui s'opère de manière souterraine, mais au quotidien. Alors, attention, parmi les ménages classe moyenne de la fonction publique, par exemple, qui ont accès au télétravail, il y en a. Eux ne vont pas faire le grand saut entre la grande métropole et le bord de mer, parce qu'effectivement, en termes de pouvoir d'achat immobilier, ils ne peuvent pas se le permettre. Par contre, ils sont assez bien représentés dans ceux qui vont faire le petit pas de côté qui va les éloigner du cœur de la métropole pour avoir peut-être un chez-soi un peu plus grand.
Lutte des places, vous disiez, j'ajoute lutte des classes. Alors, je vous dis ça parce qu'on a, ça nous arrive par mail. J'ai 12 ans, j'habite en HLM, j'ai pas réussi à convaincre mes parents à déménager dans une maison avec près d'une rivière. Ça fait référence à notre toute première intervention. Catherine est à Saint-Nazaire. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. En vous écoutant parler de la période Covid et du marché de l'immobilier qui engendre une vraie fracture, m'est venue l'idée d'envisager, peut-être, c'est ma question, pourquoi pas envisager un autre type d'habitat? Un type d'habitat qui prendrait peut-être moins de place, qui serait un peu plus dans la mutualisation, qui serait moins vorace au niveau de l'énergie, et pourquoi pas aller vers un type d'habitat léger?
Eh ben, c'est une bonne question. Merci, Catherine. J'ajoute Mathilde aussi sur l'appli qui nous dit « Nous avons fait un déménagement dérèglement climatique. Nous sommes passés avec mon conjoint de Lyon qui devenait une fournaise l'été à Rennes, la Bretagne, pour un peu plus de frais. Est-ce que vous avez des données également sur ce type de déménagement et puis sur l'habitat léger? Alors, je ne sais pas, Jérôme Fourquet, on a des indices ou pas sur ces deux questions?
Alors, sur l'habitat léger, je ne sais pas. En revanche, on parlait des faits de tendance et de mode. Ce qu'on voit très clairement, c'est que le littoral azurien, par exemple, qui pendant très longtemps était en haut de l'affiche, aujourd'hui, en termes de désirabilité, il est très fortement concurrencé par le littoral atlantique, notamment du fait des effets climatiques.
Bon, et donc ça Manche pas encore. Hein. Mais si je regarde bien,
mais c'est là où il faut investir. Là, c'est là où il faut investir. Avec plus de degrés, Granville et autres, ça va devenir magnifique. C'est déjà bien, hein, mais ça va devenir magnifique. Et regardez la Bretagne Nord aussi. Hein.
Xavier Desjardins.
Oui, je voulais dire, l'auditrice posait une question, en gros, ces mouvements de population, est-ce qu'ils sont compatibles avec des enjeux écologiques, elle parlait la question. Bah, là, il y a quand même quelque chose, c'est là où le bât blesse, c'est que quand même, globalement, non. On parlait du train, mais quand même, globalement, ces gens qui se desserrent, qui habitent dans les zones rurales, etc., c'est quand même évidemment la voiture qui est le principal connecteur à l'emploi. C'est plus de 90% des kilomètres qui sont parcourus par les Français sont en voiture. Donc là, ça pose une question. Et puis aussi la question de tous ces mouvements-là, en fait, quand même, entraînent une forme d'étalement résidentiel et d'étalement urbain, qui pose tout un certain nombre de problèmes, de
alors
respect
qu'on nous
des
dit
espaces
zéro
agricoles,
artificialisation,
de biodiversité. Et on voit bien que là, effectivement, je dirais, nos modes de vie sont un petit peu contradictoires avec certaines de nos ambitions écologiques. Et ça va être un sujet brûlant des années à venir.
Jérôme Fourquet, vous avez noté d'ailleurs du nouveau à ce sujet au niveau des ventes de parcelles.
Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas forcément d'informations sur l'habitat plus léger. Peut-être on pense notamment en construction bois. Mais là encore, si le produit est de qualité et qu'il est abordable, je pense qu'il y a une partie de la population qui est sensible à l'argument écologique qui peut se laisser tenter. Ce qu'on constate aussi, c'est que dans les premières couronnes urbaines, qui sont donc celles qui ont été les plus précocement urbanisées,
À l'époque, le foncier ne coûtait pas trop cher, donc on plantait une maison sur une grande parcelle. Et on arrive aujourd'hui à un moment de l'histoire où les premiers occupants de ces lotissements sont à un âge un peu avancé, donc ils partent en maison de retraite ou parfois certains décèdent. Et donc ce qu'on voit se développer beaucoup, c'est le phénomène de division des parcelles qui permet dans une commune où il y a plus de terrain à bâtir, eh bien de reconstruire et de densifier, pas forcément en bois, mais de densifier en faisant de nouvelles constructions, en mettant donc deux maisons là où il n'y en avait qu'une historiquement.
Voilà, donc la question du logement, du terrain, une question essentielle. La question du transport aussi, et ça va être le dernier appel que nous allons prendre. Bonsoir Audrey.
Oui, bonsoir.
En Ardèche, problème de transport.
Oui, tout à fait. Donc moi, je suis dans la région d'Annonay. J'habite d'un côté, on va dire, globalement, et je travaille de l'autre côté d'Annonay. Je me suis renseignée, alors mon travail, je l'adore, ma maison aussi, et je me suis renseignée pour prendre le bus. Il me faut deux voitures pour prendre le bus pour aller travailler, c'est-à-dire une voiture pour aller de chez moi au premier arrêt qui est à quelques kilomètres, puis ensuite, par manque de correspondance, il faudrait que j'ai une deuxième voiture à Annonay pour aller travailler.
Eh ben voilà.
Voilà. Et en Ardèche, ben, si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul département français qui n'a pas de transport de train voyageurs.
Ça a été le premier département à supprimer les trains voyageurs. Il y a vaguement un essai de les faire revenir le long du Rhône, mais c'est pas évident du tout. Merci beaucoup Audrey pour ce témoignage. Vous vouliez réagir peut-être Xavier Desjardins à ce qu'elle nous disait Audrey?
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, d'une certaine manière, ces mouvements-là font que les gens ont des vies de plus en des lieux multiples, quoi. Lieu d'emploi, lieu de vie, et puis parfois multi-résidence, etc. Donc tout ça entraîne effectivement des déplacements de plus en plus longs. Et ce qu'on observe, c'est que, évidemment, les Parisiens sont ceux qui ont les déplacements domicile-travail les plus longs tous les jours, mais que ça reste à un niveau élevé, mais stable. Et là où le temps passé et les kilomètres parcourus augmentent le plus vite, c'est dans les zones rurales et dans le périurbain. Parce que effectivement, c'est ces mouvements qu'évoquait cette auditrice qui entraîne aussi certaines quand même complexités de vie dans ces zones rurales. Beaucoup de gens ont dit tout le bonheur qu'ils avaient à y vivre, qui est tout à fait légitime et je le souhaite pour eux. Mais effectivement, ça fait partie d'une des difficultés fortes de ces espaces-là.
Des choses auxquelles il faut réfléchir, notamment quand on quitte la région parisienne, Isabelle Cabala-Langlois,
oui.
Au problème des transports.
Effectivement.
Métro boulot dodo fini, mais si c'est auto.
Oui, d'autant que les Parisiens ont pris l'habitude d'avoir de moins en moins de voitures, et il n'est pas si clair qu'en repartant, ils aient tellement envie de repartir dans des endroits où ils vont avoir besoin de nouveau de la voiture. Il y a un chiffre que je voudrais donner sur les Franciliens qui quittent l'Île-de-France, c'est qu'en moyenne, en termes de revenus, ils ont des revenus supérieurs à ceux des résidents du même âge, de 15% supérieurs. Cela, c'est un élément intéressant pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau des concurrences dont on a parlé tout à l'heure, hein, pour y revenir.
Bien sûr.
En matière de logement.
Bien sûr. Alors, on a beaucoup. L'émission va se terminer. On a beaucoup parlé de ceux qui ont déménagé. On n'a pas eu le temps de parler de ceux qui ont acheté des résidences secondaires. Jérôme Fourquet, la carte n'est pas forcément la même.
Non. Alors, beaucoup de choses ont été achetées. Partout en province. Maintenant, il faut voir si les gens y restent et s'il va pas y avoir un effet de retour ou de revente par la suite. Mais dans les zones qui sont les plus attractives, le marché va rester très tendu.
Voilà, une affaire à suivre, comme on dit. On refera des téléphones sonnent. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Jérôme Fourquet, votre dernier livre, c'est La France d'après, tableau politique. C'est au seuil. Xavier Desjardins, La révolution obligée à la rue, édition. Merci à tous. Juste après les infos de 20h, il y a une soirée spéciale qui vous attend en direct du printemps de Bourges avec Laurent Goumard. Ce sera juste après les petits bateaux de Camille Cronier.
Bonjour. Je m'appelle Mika, j'ai 5 ans et demi, et je voudrais savoir pourquoi les papillons sont-ils beaux. Merci, au revoir.